Écho d'ici, écho d'ailleurs. Jean-Pierre Boris, Guillaume Munier.
Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Écho d'ici, Écho d'ailleurs, l'émission qui démonte les rouages de l'économie mondiale. Aujourd'hui a lieu en France, vous en avez peut-être entendu parler, un mouvement populaire spontané contre des prix de l'essence et des impôts jugés trop élevés. Ces mécontents se plaignent d'un pouvoir d'achat en berne. Et ce qui explique une partie de ce mal-être, de ce malaise, c'est le manque d'emploi dans le pays. Une difficulté sur laquelle Donald Trump, le président américain, insistait dans un de ses tweets rageurs du matin contre Emmanuel Macron après leur rencontre du 11 novembre dernier, qu'Emmanuel Macron lui-même soulignait lors de sa campagne présidentielle victorieuse de 2016.
Nous sommes dans le chômage de masse depuis 30 ans. Nous sommes le seul pays d'Europe qui n'a pas réussi à endiguer cela. 10% de chômage, un taux de chômage des jeunes qui est extrêmement important. Face à cela, il faut donner en particulier à nos petites et moyennes entreprises, la possibilité de créer davantage d'emplois, d'être plus agile, de s'adapter au cycle économique.
De fait, depuis bientôt 40 ans, la France se bat contre le fléau du chômage ou fait semblant de se battre selon certains. Les candidats aux élections multiplient les promesses, les présidents prennent des engagements, les gouvernements mettent des plans au point, mais rien n'y fait. Grosso modo, 9 à 10% de la population active française cherche toujours du travail aujourd'hui. Une situation d'autant plus singulière que nos grands voisins, britanniques ou allemands, n'ont pas ce problème. Alors pourquoi cet échec ? Y a-t-il une fatalité française ? Question que je vais poser aux deux invités que je vous présente maintenant. Bonjour Étienne Lehmann.
Bonjour.
Étienne Lehmann, vous êtes professeur d'économie à l'Université Paris 2 Panthéon-Assas. Et avec vous dans ce studio, Emmanuel Jessua, bonjour.
Bonjour.
Emmanuel Jessua, vous êtes directeur des études de Rexecode, un centre de recherche économique qu'on décrit généralement comme proche du patronat français, en tout cas qui est au service des entreprises françaises. Voilà. Alors au cours de cette émission, nous retrouverons des reportages. Domitil Piron nous attend à Grenoble et Alexis Bédu à Nantes. Et enfin, grâce à la Sonothèque de RFI, nous effectuerons une plongée dans les archives sonores de l'histoire économico-politique française. Emmanuel Jessua, vous êtes un peu l'homme de la conjoncture ici, dans ce studio. Alors, où est-ce qu'on en est du chômage en France ? Quel est le taux admis ?
Alors, les statistiques qui font foi sont celles de l'INSEE, publiées trimestriellement, qui répondent à la définition en fait du Bureau international du travail. Donc, c'est une définition internationalement admise. Et il s'agit d'être immédiatement disponible, de rechercher activement un emploi et de ne pas avoir travaillé pendant une période donnée précédant l'interrogation. Et donc, on interroge directement les ménages. Donc, c'est une distinction par rapport aux statistiques dites administratives du chômage publiées par Pôle emploi tous les mois. Si on veut véritablement mesurer le chômage, il faut regarder ces statistiques de l'INSEE. Alors, que disent-elles ? Elles disent que le chômage baisse depuis 2-3 ans et que cette baisse tend à s'atténuer, on va dire. On a atteint au deuxième trimestre 2018 9,1% sur l'ensemble de la France, 8,7% sur la France métropolitaine. Toute la question est de savoir si cette baisse va se poursuivre. On a plutôt des signes de ralentissement, en particulier si on regarde par ailleurs, les créations d'emplois qui semblent ralentir par rapport au rythme très important qu'on a connu l'année dernière. On avait entre 50 000 et 100 000 créations d'emplois trimestrielles. Là, on est plutôt autour de 30 000. Donc, on a un net ralentissement qui compense à peu près l'augmentation de la population active, ce qui fait que le chômage devrait se ralentir. Un autre élément qui pourrait attester le fait qu'on va rentrer dans le noyau dur du chômage, c'est le fait qu'on a des difficultés de recrutement qui sont très intenses.
On évoquera ça au cours de l'émission. Etienne Lehmann, est-ce qu'on peut faire une cartographie du chômage ? Où est-ce qu'on est au chômage ? Dans les villes, dans les campagnes, dans les régions frontalières ? Est-ce qu'on travaille plus que dans les régions qui sont à l'intérieur du pays ? Est-ce qu'il y a une cartographie possible ?
Il semblerait surtout qu'il y ait une cartographie de la reprise de l'emploi, parce qu'effectivement, on sort d'une période où l'emploi s'améliore, où on agrégé, le taux de chômage diminue. Mais ce que nous disent les études, notamment celle de France Stratégie, que je trouve assez marquante...
Donc France Stratégie, c'est un bureau gouvernemental, une administration.
Qui est placé auprès du Premier ministre, je crois. C'est, en tout cas, ce que nous disent ces chiffres-là, notamment, c'est que la création d'emplois se concentre dans des zones qui sont où se loger est déjà cher. Le prix de l'immobilier, que ce soit en termes de loyer ou que ce soit à l'achat, est déjà élevé. Ce sont les zones tendues. Et donc ça, c'est quelque chose que je trouve de très préoccupant, parce que ça veut dire que si par hasard, on arrivait à réduire le taux de chômage à des niveaux proches de ceux de nos voisins, en réalité, une bonne partie du pouvoir d'achat risque d'être captée par les prix de l'immobilier. Et ça, je trouve
Alors,
que c'est quelque chose d'inquiétant.
Vous allez trop vite dans votre démonstration, si je peux me permettre. Vous nous dites que les emplois qui se créent en ce moment sont dans des zones riches.
Je dis que les emplois qui se créent sont souvent, pas toujours, mais en tout cas une grosse partie d'entre eux, c'est le phénomène de métropolisation de l'emploi, se créent dans des zones qui sont déjà fort densément habitées. Donc ce sont des zones où il n'y a plus tellement de place pour créer des logements supplémentaires, parce qu'il faut aussi créer de l'espace pour loger ces emplois-là, et non pas seulement les travailleurs. Et donc ça pose des problèmes.
Mais concrètement, c'est dans quelle région ?
C'est l'Île-de-France, notamment, ce sont les centres-villes. L'Île-de-France est une métropole à 11 millions d'habitants, et où vous avez une grande concentration de l'emploi sur la ville de Paris et sur la Défense. Donc, soit tout le monde veut habiter près de l'endroit où il travaille, c'est normal, et donc ces endroits-là, il n'y a plus de place pour construire des logements, et donc ça alimente une inflation des prix de l'immobilier.
Emmanuel Vinsois, où est-ce qu'on est au chômage en France ?
On est plus au chômage en France, effectivement, dans des régions qui sont éloignées de ces grandes métropoles. Hein. On a parlé de la métropole parisienne, évidemment, mais vous avez Lyon, vous avez aussi quand même certaines régions dynamiques, notamment sur l'Atlantique. Vous avez Bordeaux, Nantes prend aussi est assez dynamique en ce moment. Et puis, vous avez quand même beaucoup de villes de taille moyenne qui se vident, et des zones anciennement industrielles, particulièrement dans le nord-est de la France, qui n'arrivent pas à rebondir. C'est-à-dire que, en réalité, vous avez un arc atlantique qui n'a pas tant connu que ça l'industrialisation, et qui a pu plus rapidement aussi s'orienter vers le tertiaire et trouver son dynamisme.
Emmanuel Macron, le président français, est donc arrivé au pouvoir il y a un an et demi, pratiquement. Est-ce que sa politique a donné des résultats positifs sur le front de l'emploi, Etienne Lehmann ? Est-ce que c'est trop tôt ?
Je pense que c'est trop tôt pour le dire. Les politiques de l'offre, de manière générale, c'est-à-dire celles qui cherchent à rendre la création d'emplois plus attractive pour les entreprises, celles qui jouent sur le coût du travail, sur des différents aspects de réglementation, ce sont souvent des politiques qui, en tout cas on l'a vu dans les autres pays, lorsqu'elles ont été adoptées aux Pays-Bas d'abord, en Allemagne, au Danemark, dans les pays d'Europe du Nord, sont souvent des politiques qui ont, dans ces pays-là en tout cas, réussi à non seulement faire baisser le taux de chômage, mais aussi le taux d'emploi. Mais en général, ça prend du temps. Ça se juge sur des horizons de 5 à 10 ans. Ça ne se juge pas sur un horizon d'un an.
Emmanuel, bien sûr.
Je rejoins totalement Etienne Lehmann, à l'exception près probablement de tout ce qui touche au coût du travail, qui peut produire plus rapidement des effets, en particulier si on est à proximité du SMIC. C'est-à-dire qu'on touche au coût du travail peu qualifié ou non qualifié. Mais sinon, c'est vrai que les réformes structurelles, le fonctionnement du marché du travail mettent du temps à produire leurs effets, parce que ces effets sont complexes, parce que il faut que les changements réglementaires soient appropriés par les entreprises. Et paradoxalement, on peut même avoir à court terme, par exemple, si on pense à la fois aux lois El Khomri et aux ordonnances travail qui sont en continuité, finalement.
Donc,
continuité entre les deux gouvernements qui se sont succédés, voilà, exactement, qui jouent à la fois sur la sécurisation des ruptures de CDI et en sécurisation juridique et simplification.
C'est-à-dire moins de recours aux prud'hommes, aux tribunaux.
Moins
pour
de recours aux prud'hommes ou des règles plus claires et plus simples qui laissent moins de place à l'interprétation du juge. des indemnités plus prévisibles aussi pour le salarié et l'employeur en cas de licenciement jugé abusif. Et puis tout ce qui est décentralisation du dialogue social au niveau de l'entreprise, tout ça va prendre du temps parce qu'il faut que les entreprises se l'approprient, comprennent la réglementation, négocient des accords, s'emparent de ces nouvelles possibilités. Mais il peut y avoir dans un premier temps effectivement un surcroît de licenciement qui peut aussi jouer un peu dans le sens inverse. Alors c'est un effet qui est à très court terme, mais qui est théoriquement possible.
Etienne Lehmann.
Il y a un chiffre quand même une évolution récente qui, faut voir si elle se confirme, mais qui me semble intéressante. C'est-à-dire que la loi El Khomri et les lois des ordonnances, l'une des logiques, en fait, c'est de faciliter la séparation en CDI pour quelque part durcir, et en tout cas, réduire, le recours au CDD. Or, on voit
au
déjà.
Contrat à durée déterminée. Alors que le CDI, le contrat à durée indéterminée.
Un contrat à durée indéterminée. Et ce que l'on voit déjà, on voit déjà sur les séries tendanciellement, que ce soit en stock ou en flux, la part des emplois en CDD tendanciellement augmente. Or, on voit déjà qu'elle commence à s'infléchir.
Alors, c'est une tendance en fait qu'on remarque depuis déjà quelques années, y compris avant la loi El Khomri. Et donc, il y a probablement des effets conjugués, à la fois de ces nouvelles réformes, mais également de mesures qui ont été faites auparavant. Notamment, on peut penser à la prime à l'embauche dans les PME, qui portait soit sur des CDD plutôt longs, soit sur des embauches en CDI. Et puis on peut penser également au fait qu'on est dans un contexte actuel de difficultés de recrutement, on y reviendra, fait que les employeurs aussi peuvent évidemment proposer des salaires plus élevés, mais aussi des emplois plus stables.
On disait au début de l'émission que ce chômage français ne date pas d'hier. Écoutez ce petit montage. On commence avec François Mitterrand le 14 juillet 1994, c'est-à-dire presque à la fin de son second mandat.
Je crois que la reprise est là. Je crois aussi que la reprise de la croissance n'entraînera pas, comme on a pu le croire dans le passé, un véritable effondrement du chômage. Cela ne veut pas dire que ce soit une fatalité.
Je demande aux entreprises de considérer comme un devoir national d'offrir, dès le mois de juin, une chance d'insertion à des centaines de milliers de Français. En concentrant l'effort sur ceux qui en ont le plus besoin, ceux qui risquent de s'installer dans le chômage de longue durée, qui est la porte qui mène à l'exclusion.
Je veux être jugé sur des résultats. Je m'engage, si je suis élu président de la République, à la fin de mon quinquennat, sur 5% de chômage et 5 mois de durée moyenne du chômage. Et ce sont des résultats qui m'obligent. Il faut cesser l'incantation et les discours. Il faut respecter les Français. On leur dit voilà ce qu'on va faire, voilà comment on va le faire, voilà les résultats qu'on veut obtenir.
On est tout près du but. Je m'étais engagé devant vous, donc devant les Français, l'année dernière, à la même époque, pour leur dire je ferai tout avec le gouvernement de Jean-Marc Ayrault pour inverser la courbe du chômage à la fin de l'année 2013. Nous y sommes presque. Donc, dans 2 mois, j'aurai à rendre compte.
Vous aurez reconnu successivement donc les présidents Mitterrand et Chirac, puis Nicolas Sarkozy et François Hollande. Alors, Étienne Lehmann, Emmanuel Jessua, cette succession de petites archives sonores a provoqué chez vous, alors les auditeurs ne peuvent pas le voir, ne peuvent pas l'entendre, mais une franche hilarité. Pourquoi, Étienne Lehmann?
C'est assez amusant finalement de voir le contraste entre ces incantations finalement où on fait appel à la volonté, au bon sens, et au moral et à l'effet psychologique, et puis effectivement le résultat qui est par derrière. Ce contraste entre les deux est surprenant.
Emmanuel Jessua.
Oui, et puis peut-être qu'il vaut mieux en rire, mais en fait c'est assez En fait, au fond, on aurait envie d'en pleurer parce que le constat est assez cruel, qui est un constat d'impuissance. Si on regarde. Finalement, sur le temps long, ça fait 35 ans, depuis 1983, qu'on a atteint un plateau de taux de chômage de masse. On fluctue en réalité, bon an, mal an, autour de 8,5%. On est une seule fois descendu au-dessous de 7% de chômage, une seule fois, un seul trimestre, c'était juste avant la crise financière de 2008, le premier trimestre 2008, et donc il y a quelque chose effectivement en réalité d'un peu glaçant quand on regarde cette durée à taux de chômage élevé, qu'on n'arrive pas à faire baisser. Comme le disait Emmanuel Macron, on est de ce point de vue-là une anomalie en Europe, il exagérait un peu en disant qu'on était le pire pays, parce qu'il y a l'Espagne, qui est encore plus atypique, avec un taux de chômage extrêmement élevé, mais on est le deuxième pays européen qui a ce niveau de chômage de masse, encore une fois, qui apparaît comme incompressible.
Alors cet écho d'ici, écho d'ailleurs sur RFI, nous parlons de ce chômage de masse avec lequel la France semble vivre depuis près de 40 ans. Deux invités, Emmanuel Gessua, directeur des études au sein du think tank Rex Ecode, et Étienne Lehmann, professeur d'économie à l'université Paris 2, Panthéon Assas. Incompressible ce taux de chômage, Étienne Lehmann, qu'est-ce qui fait qu'il est incompressible?
Ce qui fait qu'il est incompressible, c'est pendant de nombreuses années probablement un problème de coût du travail qui a joué là-dessus, mais effectivement, il y a eu des politiques fiscales qui ont massives sur l'emploi à bas salaire, dont on peut penser que si elles n'avaient pas été mises en œuvre, la situation serait encore pire. Et le problème qui semble se pointer à nouveau, c'est qu'on voit que dès qu'aujourd'hui le taux de chômage commence à peine à descendre sous les 9%, eh bien immédiatement les difficultés de recrutement réapparaissent. Donc ça interroge fortement sur est-ce que les universités, en tout cas est-ce que l'enseignement supérieur, l'enseignement secondaire forment les bons diplômes, est-ce que les entreprises sont correctement associées à ces politiques de formation, est-ce que les chefs d'entreprise sont aussi prêts à faire des efforts pour accueillir des apprentis, pour faire ce genre de choses. En tout cas, ça pose le problème de la formation.
Certains sociologues, certains analystes estiment que, au fond, ça a été un choix de la société française d'assumer ce chômage de masse, que nous nous sommes très bien accommodés, que les Français ont très bien vécu, se sont très bien accommodés de ce chômage de masse. Vous en pensez quoi ?
On peut le penser parce que, d'une certaine manière, on a voulu absolument ne pas remettre en cause, et je pense à titre individuel, non pas que c'était une bonne chose, notre système de protection sociale. Donc, par exemple, c'est un paradoxe. On est l'un des pays qui avons le taux de chômage le plus élevé. On a un taux d'emploi. On raisonne beaucoup en taux de chômage, mais le taux d'emploi, qui est une autre statistique, et à mon avis plus pertinente, est aussi très défavorable à la France. Le taux d'emploi, c'est la part des personnes en âge de travailler qui sont en emploi. Là, on n'est pas les deuxièmes, on est les quatrièmes, puisque l'Italie, l'Espagne, et la Grèce font pire que nous.
Et c'est-à-dire ?
Donc le taux d'emploi.
Quel est le taux d'emploi en France ?
Le taux d'emploi, on est en gros, grosso modo, 2 personnes sur 3 en âge de travailler en France ont un emploi. En Allemagne, en Nouvelle-Zélande, en Suède, au Japon, au Danemark, au Royaume-Uni, on est plutôt autour de 3 sur 4. Donc la différence est énorme. Ça représente 1 à 2 millions d'emplois en plus. Donc on aurait beaucoup moins de problèmes de finances publiques, par exemple, si on avait les mêmes taux d'emploi que dans ces pays-là.
Ce que vous nous dites, est-ce que ça n'est pas une vision très conservatrice des choses quand vous plaidez tous les deux, en fond, dans vos interventions, pour moins de protection sociale, moins de cotisations sociales? Est-ce qu'il n'y a pas une autre interprétation de ces politiques qui est la précarisation des travailleurs, des salariés, Emmanuel Gessua?
Alors, je m'inscris en faux. Je ne plaide pas pour moins de protection sociale, mais plutôt pour protéger différemment. C'est-à-dire réorienter un peu la logique, pas tout transformer. Hein. Il ne s'agit pas de transformer complètement notre modèle social, mais d'avoir un mode de protection qui soit plus compatible avec une économie d'innovation et de changement technologique et de croissance. Et donc il s'agit en réalité de passer plus, en un sens, à une logique scandinave qui est à la fois d'être un peu moins dans le curatif et un peu plus dans le... C'est-à-dire moins de réparer de prendre acte de la pauvreté et des difficultés sociales, mais plutôt de permettre aux gens de sortir de la pauvreté d'être à nouveau employable et d'être à nouveau actif. Et c'est un peu le sens finalement de la politique gouvernementale, en particulier en ce qui concerne la formation et les réformes du marché du travail. C'est-à-dire passer d'une logique où on protège les postes et les emplois à une logique où on protège les personnes et on leur donne les moyens de rebondir. Donc avec à la fois effectivement des mesures de flexibilisation, de fluidification du marché du travail, ce qui peut avoir un impact en termes de bien-être, parce qu'il y a beaucoup de gens restent en CDI pour de mauvaises raisons, parce qu'ils ont peur de le perdre et de ne pas en retrouver un autre, alors qu'ils ne sont pas heureux et épanouis dans leur métier. Et par ailleurs, une formation qui leur permette de rebondir. Donc c'est pas tant diminuer la protection sociale que avoir une protection sociale qui soit plus compatible avec des changements de métier plus rapides. Le fait que les gens puissent aller plus rapidement vers les secteurs porteurs, productifs, les entreprises les plus productives.
Alors, on l'a vu au début de cette émission, il y a Étienne Lehmann, vous les avez soulignés, les disparités existent entre les départements français. Il y en a où il est plus facile de trouver du travail, d'autres où il est beaucoup moins facile. Dans l'ouest du pays, ça recrute et les entreprises ont parfois même beaucoup de mal à trouver des candidats Par exemple, en Vendée, à l'ouest du pays, où sous l'impulsion de la Chambre de commerce et d'industrie, il a été décidé d'aller chercher les recrues aussi loin que nécessaire. C'est le cas même pour de petites entreprises, comme dans cette carrosserie de La Roche-sur-Yon, la plus importante agglomération de Vendée, où recruter n'est décidément pas une mince affaire. C'est un reportage Écho d'ici, Écho d'ailleurs, signé Alexis Bédu.
Donc là, actuellement, je suis en train de réparer une benne, donc avec les couvercles qui ne collissent plus. Il a fallu donc trouver les pannes et les erreurs qu'il pouvait y avoir. Donc là, c'était un bloc acier qui était complètement tordu.
Auxerre, La Roche-sur-Yon, elle est simple. Francis Chico a fait 537 km pour trouver un travail. Carrossier de formation, il était sans emploi depuis 8 mois. Et dans l'Yonne, son département au taux de chômage approchant les 10%, impossible pour lui de trouver un travail.
Alors, c'est pas compliqué. Dans l'Yonne, passé 40 ans, on vous donne plus de travail, on vous dit que vous êtes foutu. Donc il n'y a plus de travail et puis en plus localement la région est morte, hein, plus d'activité, plus rien, donc tout tombe, tout coule. Et puis bon bah c'est vrai, hein, vous n'avez pas l'emploi qui vous fait des menaces par derrière pour aller postuler sur des boîtes d'intérim et quand vous y êtes inscrit, ils font pas de cadeaux. Hein, et il n'y a plus rien, donc automatiquement, faut partir, faut quitter la région.
Partir pour une région qui recrute, pour lui ça sera la Vendée. Le département a lancé en juin une campagne publicitaire pour attirer des travailleurs. En 5 mois, les entreprises vendéennes ont reçu 12 500 candidatures de toute la France. De quoi soulager Thomas Quentin, le nouveau patron de Francis Chico.
On ne trouvait pas, non, enfin on trouvait, mais avec de la durée et avec des difficultés.
Pour ce jeune Vendéen ayant repris la carrosserie familiale, recruter était devenu un calvaire.
Le principal frein de développement stratégique de l'entreprise jusqu'à aujourd'hui, c'était la main d'œuvre, très clairement. Pas plus de monde, pas plus de chiffre d'affaires, ou en tout cas on se limitait. Et les délais sont relativement longs et le sont d'autant plus quand on n'arrive pas à recruter.
Alors pour développer son entreprise de 17 salariés, Thomas Quentin a changé de méthode parce que le monde du travail et le rapport recruteur-candidat ont eux aussi changé.
Il faut être très agile, très à l'écoute de tout ce qui peut se faire, que ce soit à l'échelle nationale, voire peut-être pour certaines entreprises un petit peu plus loin, européenne, voire mondiale. On avait jusqu'à présent tendance à penser que les gens devaient venir à nous. La tendance est clairement inversée, c'est nous qui allons chercher, c'est nous qui marketons un petit peu plus nos offres d'emploi, notre entreprise, il faut la vendre pour que les gens soient intéressés et daignent bien venir à au moins un entretien d'embauche.
Le programme La Vendée Recrute lui a donc permis d'embaucher 2 nouvelles recrues et comme nombre d'entrepreneurs vendéens, il ne compte pas s'arrêter là. Dans le département, les offres d'emploi ont augmenté de 11% en une année.
Un reportage signé Alexis Bédu à La Roche-sur-Yon. Emmanuel Jessua, vous en pensez quoi ? Est-ce que c'est illustratif du sous-emploi ou du sur-emploi de certaines régions ?
Effectivement, c'est illustratif à la fois du fait que certaines régions souffrent d'un manque de dynamisme économique, manque d'attractivité économique, et que dans d'autres régions, il y a des difficultés de recrutement qui sont à la fois liées à un contexte macroéconomique où le taux de chômage atteint son noyau dur, et en même temps au fait que il y a des inégalités régionales en termes de dynamisme économique.
Vous employez le terme noyau dur, incompressibilité. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire
en fait? Fondamentalement, ce que ça veut dire, c'est que ce que j'appelle ce noyau dur du chômage est lié aux qualifications. C'est-à-dire c'est un chômage des peu ou non qualifiés. Et donc, il y a effectivement un enjeu, du coup, de formation. Alors, quand on dit formation, c'est pas uniquement la formation continue, la formation professionnelle. C'est aussi la formation initiale. On peut mettre d'ailleurs l'apprentissage dedans, parce que c'est une articulation en réalité. C'est l'interface un peu entre la formation initiale et la formation professionnelle. Et c'est là où on est probablement pas très bon.
En France,
par rapport à nos voisins, vous avez des enquêtes qui sont quand même très intéressantes de l'OCDE, qui sont peut-être un peu moins populaires que PISA, mais qui sont les enquêtes PIAC.
PISA, c'est sur le système de formation.
Voilà, c'est sur le système de formation initiale. Mais vous avez les enquêtes PIAC qui évaluent les compétences de l'ensemble de la population active. Et en réalité, il en ressort que la France est plutôt en queue de classement de l'OCDE.
Mais ça veut dire quoi concrètement?
Ça veut dire que sur des compétences, et c'est ce qui est inquiétant, c'est que c'est sur des compétences de base, c'est-à-dire ce qu'on appelle la numératie, la littératie, c'est-à-dire la capacité à lire et comprendre un texte et à compter et à faire des calculs simples. Et en fait, soit des qualifications, soit des niveaux scolaires très bas, soit même moyens, on est vraiment en queue de classement. Et même pour les...
Mais ça
les,
veut dire que les gens qui travaillent dans les entreprises françaises, souvent, ne savent ni lire, ni écrire,
non,
ni
mais
compter.
Moins bien que la plupart des pays de l'OCDE. Et donc, il y a un problème de compétence globale de la main-d'œuvre qui explique aussi le fait qu'on ait un taux de chômage élevé. Dans le chômage actuel, vous avez à peu près 60% des gens qui n'ont pas atteint le bac.
Etienne Lehmann.
Finalement, ça illustre la difficulté qu'on a en France à nommer les problèmes lorsqu'ils se posent. Donc effectivement, il y a des problèmes de recrutement. Il n'est pas une question ici de culpabiliser les personnes qui éventuellement auraient des difficultés à lire par rapport aux autres. De la même manière, quand on dit qu'il y a des emplois qui sont disponibles, mais qu'il y a des emplois disponibles à 500 km, que donc il faut réfléchir aux incitations et aux accompagnements, on n'est pas en train de culpabiliser les chômeurs qui veulent pas le faire. Mais on est simplement en train de nommer les problèmes et éventuellement en train de dire les choses sont là. Si d'une certaine manière les chômeurs ne vont pas aller chercher les emplois là où ils sont, c'est pas de leur faute, c'est parce qu'on n'a pas mis les incitations
et
les accompagnements.
Ce qu'Emmanuel Gessuet disait un peu différent, il dit dans les entreprises, le niveau de formation est insuffisant. Oui. Et en quoi est-ce que cela accroît le chômage?
Dans
la population. En quoi est-ce que cela accroît le chômage?
En quoi ça accroît le chômage? Parce que ça veut dire qu'évidemment, si les gens sont moins bien formés, on peut imaginer que l'entreprise sera moins efficace pour si les gens parlent moins bien les langues étrangères pour aller chercher des contrats à l'étranger au niveau de l'exportation. Donc il y aura moins de productivité, sera plus difficile, seront moins compétitifs par rapport à d'autres entreprises. Donc c'est tout un ensemble qui fera que si après ils demandent des augmentations de pouvoir d'achat via des hausses de salaire, ce qui est tout à fait légitime, eh bien ce sera beaucoup plus difficile de leur accorder parce que justement, il n'y a pas derrière le rendement attendu. C'est ça, pour ça que ça pose un problème.
Emmanuel Gessuet, ça pose un gros problème de productivité
C'est le cœur du problème. Si vous avez deux conséquences dommageables. Vous en avez une sur le chômage, c'est-à-dire vous avez des gens qui ne sont pas employables au niveau minimum du coût du travail qui est le coût actuel, qui est le coût du travail au niveau du SMIC.
Décortiquez-nous.
Donc on a un salaire minimum en France comme dans beaucoup d'autres pays. La particularité de la France, c'est que ce salaire est très élevé par rapport à la distribution des salaires. On a un rapport du niveau du salaire minimum au salaire médian. Qui est le plus élevé de tous les pays de l'OCDE. Donc on a un salaire minimum, dit plus simplement, qui est assez contraignant. Et du coup, c'est pas intéressant pour une entreprise de recruter quelqu'un qui n'est pas assez compétent par rapport à ce salaire. C'est-à-dire que l'entreprise risque d'y perdre.
Donc mais
ça n'est pas rentable
pour
elle. Parce que cette personne risque de ne pas être assez productive, de ne pas assez bien...
Pour rembourser, pour générer suffisamment de revenus.
Pour compenser le coût du travail en face. Alors, il y a eu des efforts depuis 30 ans pour abaisser le coût du travail à ce niveau-là, mais qui est évidemment coûteux pour les finances publiques et qui évidemment nécessite de le financer par d'autres hausses d'impôts. Donc ça, c'est un problème à la fois en termes de chômage, du coup, parce que ça exclut les personnes insuffisamment qualifiées du marché du travail, et puis c'est un problème, en réalité, pour les entreprises qui ne trouvent pas assez de personnes productives. Et donc, in fine, ça va peser sur la productivité totale du pays. Alors, on dit souvent les salariés français sont très productif, c'est vrai, mais c'est aussi parce que on a éliminé toute une partie de salariés moins productifs, moins qualifiés, qui trouvent des emplois dans d'autres pays, par exemple en Allemagne.
C'est ça le noyau dur du chômage, Etienne Lehmann, ce sont les gens insuffisamment formés.
Le chômage en France n'est pas du tout un phénomène égalitaire. C'est un phénomène profondément inégalitaire qui touche les gens peu diplômés et les jeunes. Et a fortiori les jeunes peu diplômés. C'est là qu'est le chômage. On a des problèmes d'emploi. Et les problèmes d'emploi sont importants. Par exemple, on a le problème d'emploi des seniors qui posent des problèmes de finances publiques. Et ces problèmes-là sont aussi importants parce qu'ils nous mettent dans une spirale négative ou parce que le taux d'emploi des seniors sont trop faibles. Et ça, on a une sécurité sociale qui coûte très cher, notamment en termes de dépenses de retraite ou comme on veut la financer, et bien ça veut dire qu'on est obligé de maintenir des taux de prélèvement obligatoires parmi les plus élevés du monde qui, à son tour, vient renforcer ce problème. Donc il y a ce problème d'emploi, de manière générale, mais le problème du chômage spécifiquement, c'est un problème de rapport entre la productivité et le coût de personnes peu qualifiées, c'est là qu'est le problème du chômage.
Le chômage, c'est un problème, c'est aussi parfois une maladie, en tout cas c'est décrit comme tel, par ce groupe de musique qui s'appelle Marcel et son orchestre qui chante le chômage.
attraper le chômage. Attraper le chômage, j'ai attrapé le chômage. Le vaccin n'est pas pour demain, et c'est tant mieux, c'est bien plus sain. Les actionnaires tirent les ficelles, c'est la sélection naturelle. Malgré cette maladie honteuse, j'essaye de garder le sourire. Au Pôle emploi, une guérisseuse m'a dit vous allez rebondir. Attrapez le chômage, j'ai attrapé le chômage. Attrapez le chômage, j'ai attrapé le chômage.
Le chômage, chanson signée Marcel et son orchestre dans Écho d'ici, Écho d'ailleurs sur RFI. Nous parlons évidemment de ce chômage de masse auquel la France semble s'être habituée. Deux invités, Emmanuel Jessua, directeur des études au sein du think tank Rexecode, et Étienne Lehmann, professeur d'économie à l'Université Paris 2, Panthéon Assas. Le chômage est une maladie, disais-je tout à l'heure en présentant cette chanson qui dit on attrape le chômage. Emmanuel Jessua, vous sembliez assentir à cette affirmation. Le chômage est une maladie en France ?
Effectivement, ça a des conséquences en termes d'insertion sociale et donc de santé. Il y a eu des études qui ont été faites effectivement sur pauvreté, insertion sociale et santé. Et du coup, il y a des conséquences négatives, effectivement, sur, je pense, l'état de santé de la population, toutes choses égales par ailleurs, c'est-à-dire un système médical identique, etc.
Étienne Lehmann, le chômage, c'est provoqué par des inégalités à l'origine, mais c'est un facteur aussi d'inégalité sociale.
C'est un facteur d'inégalité sociale, c'est-à-dire que l'un des faits qui est assez intéressant, c'est qu'en France, on parlait tout à l'heure du salaire minimum, grâce au salaire minimum, finalement, on est le seul pays où, parmi les personnes en emploi, les inégalités diminuent. Partout dans les pays de l'OCDE, avec la mondialisation, avec le progrès technique, en tout cas, j'insiste bien, parmi les personnes en emploi, on voit les inégalités de salaire qui augmentent. Ce n'est pas le cas en France, c'est le contraire, et on peut penser que c'est grâce au salaire minimum. Maintenant, la contrepartie de ce genre de choses, c'est qu'évidemment, on a des problèmes de pauvreté. Qui est pauvre en France ? C'est ceux qui n'ont pas d'emploi. Donc c'est pour ça que le problème du chômage se pose. Et quel est l'enjeu ? Si justement on veut garder ce bon point qu'a le système social français de limiter les inégalités, mais aussi quand même guérir ce cancer qu'est le chômage, c'est qu'à un moment donné, il faut réussir à la fois maintenir cet aspect anti-inégalitaire du salaire minimum et baisser le coût du travail. Ça, c'est le rôle de l'instrument fiscal.
Effectivement, c'est une ligne de crête compliquée. En gros, il s'agit d'arbitrer de trouver le bon équilibre, le bon curseur entre inégalité salariale, ce que les économistes appellent inégalité primaire, et inégalité entre les gens en emploi et les gens sans emploi, qui est une autre forme d'inégalité. Effectivement, en France, avec ce chômage très important, on a une inégalité fondamentale qui est, ai-je ou non un emploi, voire ai-je ou non un emploi stable. C'est-à-dire, parce que on peut être au chômage ou à la lisière du chômage en enchaînant des CDD très courts, très précaires. Alors que dans d'autres pays, les inégalités, par exemple, en Allemagne, les inégalités salariales vont être beaucoup plus élevées, mais il y a moins de gens au chômage. Donc, c'est pas tant une inégalité chômage-emploi qu'une inégalité salariale. Et donc, ça, c'est aussi un peu un choix collectif. Mais il y a des moyens de sortir par le haut de ça, mais qui sont des politiques d'intervention qui mettent du temps à produire leurs effets, hein, effectivement, pas avant 5-10 ans, qui jouent sur la formation. C'est-à-dire essayer de faire que les gens soient plus durablement employables.
La formation, on y revient. Le secteur du numérique connaît en France une pénurie de main-d'œuvre, faute de formations adéquates, alors que le pays souhaite devenir pôle d'excellence dans le monde numérique. Si le secteur est en pleine croissance et créateur d'emplois, rien que dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, par exemple, 9000 postes sont en ce moment à pourvoir dans le numérique et 38% des entreprises du secteur de la région ont renoncé à au moins une création de postes faute de candidatures adaptées. Pour faire face à cette situation, le campus numérique Invialps, en français dans le texte, forme des demandeurs d'emploi au métier du codage informatique, du développement. Et c'est un reportage Écho d'ici, Écho d'ailleurs, signé Domitille Piron.
Dans cette salle du campus numérique en centre-ville de Valence, l'ambiance est studieuse. Une quinzaine de demandeurs d'emploi sont derrière leurs ordinateurs en train de créer une application mobile. Durant les 6 derniers mois, ils sont redevenus des étudiants et cette année, ils sont en alternance. Damien Thibault était chauffeur taxi-ambulancier. Après un an de chômage, il s'est inscrit à cette formation pour devenir développeur.
Je pense que si on est motivé, de toute façon, on peut toujours tout apprendre. En plus, les ressources sont assez accessibles sur Internet. Elles sont libres, donc on peut même apprendre chez soi. Mais sinon, oui, je pense que c'est ouvert à tout le monde, à condition d'avoir un minimum de connaissances quand même en informatique. Il faut avoir cette culture informatique.
La formation est accessible uniquement aux demandeurs d'emploi. Il faut avoir au minimum le baccalauréat et aucune compétence n'est requise. Les cours ont été pensés pour ce public et pour le secteur du numérique. Marceline Bernard est coordinatrice du campus à Valence.
La façon dont on les forme, ils apprennent un peu par eux-mêmes, ça leur apprend à apprendre les différents langages informatiques, parce qu'il y a plein de langages informatiques et c'est sûr qu'en 6 mois, ils ne sont pas experts dans tous les langages qu'on leur apprend. Mais à force de tout le temps apprendre, de voir des nouveaux langages, ils savent apprendre par eux-mêmes.
Cette formation a été créée à la demande des entreprises pour combler les emplois non pourvus. Une idée de Ralph Gatman, le PDG de l'entreprise Coris, qui fabrique à Grenoble des simulateurs pour le transport ferroviaire et les centrales nucléaires, avait des besoins de recrutement. Pour y répondre, il a donc profité de son carnet d'adresses pour créer cette formation avec le label French Tech in the Alps. D'origine allemande, Ralph Gatman explique en partie les difficultés de recrutement dans le secteur en France.
L'apprentissage en France, c'est un peu le parent pauvre, hein, c'est une tradition. Mais je pense qu'il y a la place, clairement, pour une sorte de corps intermédiaire, on peut appeler ça comme ça, qui ne sont pas passés par la voie royale du Bac+5. Et on le voit bien, on peut générer de l'emploi en orientant les gens sur des postes techniques qui ne sont pas super pointus, mais qui sont des postes où il y a un besoin aujourd'hui et qui sont accessibles à beaucoup de gens.
Les entreprises regardent trop les diplômes et pas assez les compétences et attitudes des demandeurs d'emploi. C'est l'analyse de Ralph Gatman qui a vu passer dans son entreprise un jeune banlieusard, comme il dit, devenu Bac+2 grâce à cette formation diplômante du campus numérique. Et aujourd'hui, c'est Baptiste Jacquin, 23 ans, qui est en alternance chez Coris.
J'étais sportif de haut niveau, je faisais du hockey sur glace. Et après, j'ai enchaîné pas mal d'années où j'ai fait des petits boulots parce que je savais pas trop ce que je voulais faire et je suis tombé sur cette formation.
Grâce à son passage au campus numérique à Grenoble, il est désormais bien plus confiant à l'avenir.
Il y a pas mal d'opportunités qui peuvent s'ouvrir grâce à cette formation, du coup, j'attends de voir un peu.
Les métiers de l'informatique en France sont structurellement en tension depuis 40 ans et les besoins des entreprises toujours croissants dans le secteur du numérique.
Un reportage signé Dominique Piron, donc entre Valence et Grenoble. Étienne Lemal, qu'est-ce que ça vous inspire, ces paroles de formateurs et de gens qui passent par ces centres de formation pour acquérir de nouveaux métiers? Est-ce qu'ils répondent aux observations que vous et Emmanuel Jessua faisiez il y a quelques instants sur le déficit de formation des chômeurs français et des salariés français?
Moi, ce qui m'interpelle, c'est surtout le déficit de notre système de formation. Je suis enseignant, je suis dans le supérieur, donc je me sens impliqué. C'est notre incapacité collective, on va dire, à donner confiance aux enfants, donner confiance aux étudiants pour apprendre ce genre de choses. Il y a des tas de choses qui marchent pas aux États-Unis, par exemple, notamment les inégalités. Mais pour y avoir un tout petit peu vécu, l'accent numéro un qui est mis, mais dès le plus jeune âge, c'est de donner confiance aux enfants pour apprendre ce genre de choses, et parfois même de manière excessive d'ailleurs. Mais en tout cas, c'est une énorme différence. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on fait face plus tard des problèmes de formation, bah, mettez-vous l'informatique, eh bien oui, les gens ont beaucoup plus confiance en eux pour faire ce genre d'effort et pour apprendre des techniques qui sont professionnalisantes.
Mais là, on entendait un témoignage de quelqu'un qui semblait avoir confiance en lui.
Mais justement, c'est l'exception qui confirme la règle. Et on n'a pas assez souvent ce genre d'expérience.
Emmanuel Lesuas.
Ce que dit Étienne Lehmann est très important et c'est un facteur culturel profond. Et donc, c'est aussi les plus difficiles à faire évoluer dans un pays. C'est effectivement le fait qu'on a plutôt un enseignement, on va dire, très vertical et une éducation très verticale qui fait que l'erreur est tout de suite sanctionnée. Donc, que les élèves vont aussi avoir tendance à un peu s'auto-censurer et qu'on leur donne pas assez confiance en eux, dans leurs moyens d'apprendre et leurs compétences réelles. Et ça a un impact non seulement sur le parcours éducatif, mais plus globalement aussi sur le comportement économique, le comportement entrepreneurial, l'échec étant sanctionné à un chef d'entreprise qui a fait faillite et marqué au fer rouge.
Et alors que vous allez dans les pays anglo-saxons, c'est vu comme une ligne de plus sur un CV, comme c'est au moins aussi précieux qu'un diplôme. Vous avez tenté un truc. C'est normal que ça marche pas tout de suite. On fait tous des essais erreurs et c'est comme ça que ça marche. Et donc on a une différence de logique qui est pas du tout neutre en termes de dynamisme de l'économie, dynamisme entrepreneurial, création d'entreprise.
Ce que vous dites m'amène à faire cette remarque. Dans le débat que nous avons en France depuis des années sur le chômage, ce sont les gouvernements qui sont en permanence critiqués, auxquels on impute le chômage, l'absence de résultats, le caractère incompressible de ce phénomène. Mais jamais on ne s'adresse aux entreprises en leur disant « Et vous, quelle est votre responsabilité ?» Est-ce que les entreprises ont une responsabilité dans ce chômage de masse, Étienne Lehmann ?
En tout cas, il y a eu des choix industriels qui peut-être... Effectivement, je suis d'accord sur l'idée... Fondamentalement, l'innovation, c'est essayer, ça marche pas. L'avion Concorde, quand on l'a lancé, tout le monde a dit que c'était formidable, et on s'est rendu compte, quelques chocs pétroliers plus tard, que c'était absolument une catastrophe, et que c'est absolument pas rentable. Donc, il faut essayer. N'empêche que, il est vrai que l'industrie française, notamment, il y a un certain nombre de choix qui ont été faits, par exemple, le tout diesel dans l'automobile, qui se révèle aujourd'hui, pas tout à fait opportun. Donc, à un moment donné, effectivement, les responsabilités sont partagées. Est-ce qu'on fait les bons choix industriels, les bons paris technologiques? Ce sont des paris, c'est clair. Mais la faute n'est pas que sur les chômeurs.
Emmanuel Gessler.
J'ai jamais incriminé les chômeurs. Quand je parlais de compétences, c'était les compétences globales de la population active, chômeurs ou non.
C'est-à-dire, est-ce que les entreprises ont un rôle?
Les chefs d'entreprise, bien sûr, ont un rôle. D'ailleurs, il y en a.
Ou une responsabilité.
Il y en a un qui a été évoqué dans le reportage que vous venez de passer, qui est font-ils les recrutements les plus judicieux? Cherchent-ils simplement un diplôme pour se protéger d'une incertitude, ou cherche-t-il à voir si derrière le diplôme ou le manque de diplôme, il y a une personnalité qui fait qu'elle pourra apporter énormément de choses, un savoir-être à l'entreprise. Peut-être que effectivement, il y a eu traditionnellement un peu de conformisme par rapport et d'attente un peu formatée par rapport à des diplômes.
Mais qu'on observe aujourd'hui, de manière plus générale,
peut-être justement pour y répondre, faisant un détour aussi par la macro au lieu de la macroéconomie au lieu du seul marché du travail. Effectivement, il y a un phénomène majeur en France depuis le début des années 2000 qui a été la perte du poids de l'activité industrielle en France par rapport à nos partenaires de la zone euro. Et de la même manière, une perte de nos parts de marché à l'export, pas par rapport à la Chine simplement, mais par rapport à nos partenaires de la zone euro avec lesquels on partage la même monnaie. Et dont on peut supposer qu'on a un niveau de développement à peu près équivalent. Alors on peut dire effectivement il y a eu des mauvais choix industriels et il y en a certainement eu. Il y a aussi des aspects plus profonds, notamment une divergence de politique économique extrêmement importante au début des années 2000 entre la France et l'Allemagne, qui a fait qu'on n'a eu pas du tout la même politique de coût de production. Les Allemands, c'était pas du tout le seul aspect des réformes Schröder, mais on réussit à créer un consensus pour faire une modération salariale très importante. En France, on a eu une augmentation du coût horaire du travail avec les 35 heures, puis avec la convergence des SMIC, qui a fait qu'on a pesé sur les marges des industriels qui, exposés à la concurrence internationale, ne pouvaient pas répercuter ces hausses dans leurs prix. Et donc, leurs marges ont fondu. Et donc, on a eu un choc de compétitivité-coût qui s'est progressivement traduit sur le hors-coût, c'est-à-dire sur la capacité à dégager des marges pour investir, pour innover. Et on a eu une contraction, finalement, de notre base industrielle. Donc, certes, il y a eu probablement ponctuellement des mauvais choix, mais on ne peut pas tout expliquer par l'argument les patrons sont nuls, il n'y a eu que des mauvais choix. Un autre élément important, peut-être, et qui est aussi dans la responsabilité des employeurs et des branches professionnelles, c'est la dynamique des salaires. On a un système du marché du travail assez dual avec un emploi précaire qui tourne beaucoup, des CDD et puis des CDI plutôt protégés, et des augmentations de salaire, des grilles d'augmentation salariale qui sont assez continues et mécaniques, négociées au niveau des branches professionnelles, et qui font que la productivité chute ou pas, les salaires vont augmenter régulièrement d'année en année. Et du coup, au moment de la crise, on a eu de 2009, de la grande récession de 2009, on a eu une chute mécanique de la productivité, et les salaires ont continué à augmenter. Et donc, le coût du travail global, pas simplement en bas de la distribution des salaires, a pesé aussi sur les coûts de production des entreprises. Donc, il y a deux éléments qui ont peser sur la compétitivité. Il y a les prélèvements obligatoires, mais il y a aussi la dynamique des salaires sur laquelle les entreprises ont aussi une part de responsabilité. Et c'est pour ça que ça aurait été important, notamment dans les ordonnances sur le marché du travail, de permettre à des petites entreprises de déroger à des accords de branche qui fixent toujours les évolutions minimales de grille de salaire.
Étienne Lehmann, Emmanuel Gessua a fait remonter son analyse au début des années 2000. Mais ce qu'on entendait dans les petites archives sonores qu'on a diffusées au début de l'émission, c'est que ce phénomène du chômage est beaucoup plus ancien, qui remonte aux années 70-80. Est-ce que les mêmes phénomènes étaient à l'œuvre déjà à l'époque ?
En gros, si vous voulez, le chômage apparaît dans les économies occidentales à la fin des années 60, début des années 70, à la fin de cet épisode où l'Europe a rattrapé les États-Unis en termes de productivité, qu'on a appelé les Trente Glorieuses. Et le premier épisode, dans les années 70, les économies occidentales répondent... La réponse politique, ça a été de dire... Pendant les 30 glorieuses, chaque fois que le chômage a augmenté, c'était un problème de demande. Donc, on va faire de la relance pour la demande. Et c'est ce qu'on a essayé de faire dans les années 70. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que ça ne marchait plus. Parce que le problème ne venait plus de la demande, le problème venait de l'offre, à savoir en particulier les chocs pétroliers. Et ça s'est traduit par une augmentation de l'inflation. Donc, c'est pour ça que depuis les années 80, à un rythme différent, les premiers pays à l'avoir fait, ce sont notamment les Pays-Bas en Europe, on s'est dit, c'est un problème d'offre. Donc, essayons de réformer le fonctionnement du marché du travail pour d'abord créer de l'emploi. Les Pays-Bas sont l'un des premiers à l'avoir fait. Mais le problème, effectivement, il est ancien. Le problème, c'est un problème de diagnostic. Là-dessus, chaque pays a ses propres spécificités. Et c'est clair que, d'une certaine manière, on parle de culpabilité, c'est pas bon. C'est justement, moi le premier. C'est justement une erreur et un trait, justement, de ce problème culturel. Commençons par nous redonner confiance. Certes, assumons nos erreurs, mais commençons déjà par être un peu plus positif, puisque la plupart de nos voisins ont réussi à baisser le chômage, il n'y a pas de raison que nous n'y arrivons pas. Inspirons-nous de ce qui a marché chez eux. Adaptons éventuellement ce qui s'est passé chez eux parce que tout n'est pas forcément à prendre. Il y a des choses qu'on ne souhaite pas. Mais si eux ont réussi, si l'Allemagne, les Pays-Bas, la Belgique, la Suède, le Danemark, la Finlande, le Japon ont réussi à augmenter leur taux d'emploi, il n'y a aucune raison pour que nous ne fassions pas la même chose.
Eh bien, écoutez, c'est sur cette parole pleine de sagesse et d'espoir que cette émission se termine. Merci à vous deux, Étienne Lehmann et Emmanuel Gessua, d'avoir accepté l'invitation de RFI. Vous pouvez nous réécouter sur le site internet www.rfi.fr ou sur l'application Pure Radio sur votre smartphone à l'onglet émission. Je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures économiques.
Écho d'ici, écho d'ailleurs, sur RFI.